Nous asseoir, nous allons commencer cette conférence. Donc cette conférence rentre dans le cycle que nous avons initié avec les amis, à savoir recevoir un certain nombre de personnalités de l'art, et M. Bettenon en est une, et d'autre part également développer un cycle d'initiation à l'histoire de l'art, ce que nous avons fait lors de la dernière conférence. Alors nous restons en Italie, puisque le dernier conférencier que nous avions reçu, c'était Patricia Sandretto, qui a créé sa fondation et qui nous a tous éblouis, d'une part par son discours et d'autre part parce qu'elle collectionne et surtout l'organisation de sa fondation. Nous aurons un prochain conférencier à l'automne qui sera Jean-Hubert Martin, c'est confirmé. Et là, nous sommes vraiment très heureux. Ce n'est pas moi qui vais le présenter. Je pense que c'est Nathalie qui va présenter M. Bettenon. Martin Bettenon, tout le monde le connaît au moins de nom, pour ceux qui fréquentaient la FIAC et qui vont également en Italie, au Palazzo Grassi. Voilà.
Merci Jacques, donc président des Amis. Donc merci à tous d'être nombreux ce soir pour, effectivement, dans ce cycle de rencontres, puisque plus que de conférences, on va parler de rencontres, d'échanges, de discussions. Martin, si tu me permets, je ne vais pas faire semblant de dire vous, hein, donc pour vous présenter, c'est vrai que le parcours, alors en même temps, ai-je besoin de le dire, c'est ce que je me disais, c'est vrai que nous connaissons à un certain moment, plutôt à la fin des années 90, mais ces années 90 commencent plutôt au tout début à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, où tu es à ce moment-là chargé de mission, puis chef du cabinet du président du Centre Pompidou de 1996 à 1998, avec une mission, un moment principal qui nous fait nous croiser brièvement pour les éditions du Centre Pompidou. Puis tu rejoins la rédaction de... Tu es rédacteur en chef adjoint de Connaissance des Arts, puis de Vogue. Voilà, c'est... Et ensuite, nous nous retrouvons au ministère de la Culture où tu es délégué aux arts plastiques. Ça n'avait pas le nom de direction des arts plastiques, mais c'est l'équivalent de la direction du spectacle vivant pour les arts plastiques à l'époque. Je ne ferai pas de commentaires sur l'évolution actuelle de ce service, mais qui évolue dans tous les cas de façon positive. Et c'est à partir de l'année 2004... que tu deviens commissaire général de la FIAC, et là c'est un moment qui dure un certain temps, c'est 2004 à 2010. Autant dire que c'est un moment important, majeur, parce qu'il marque, j'ai pas dit que les autres activités n'avaient pas été aussi marquantes, mais la FIAC, dans ce moment-là, où tu te retrouves aussi avec, à tes côtés, Jennifer Flay, vous arrivez à un moment à faire de cette foire française basée à Paris, à faire ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire l'une des premières foires d'art contemporain au plan mondial, tout simplement. Donc c'est un énorme bond à ce moment-là qui est franchi et qui te propulse à la direction du Palazzo Grassi et de la fondation François Pinault, Puente della Douane, et tu sauras nous compléter tout ça, et je te remercie. Voilà, merci.
Merci Nathalie, merci au président Caton et à Jean-Pierre Michaud, que je suis heureux de retrouver ici ce soir dans l'ISC, qui est une très belle maison, où j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à venir. J'en dirai quelques mots un petit peu plus tard, puisque je vais vous emmener à Venise. Voilà, vous avez déjà la photo pour vous allécher un petit peu, mais on s'est dit en préparant cette conversation tout à l'heure avec Nathalie que je pourrais peut-être retracer brièvement, bien sûr, mais en essayant au moins sur quelques étapes de mon parcours professionnel de trouver comme ça, d'expliquer un petit peu quels pouvaient être à ce moment-là les enjeux ou les questions qui se posaient dans ce parcours. Donc on va arriver à Venise dans quelques minutes, mais d'abord je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire avant. Je voulais dire aussi que j'étais quand même très honoré de venir dans les premiers invités à ce cycle de conférences entre l'une des plus grandes collectionneuses italiennes et l'un des plus grands conservateurs et commissaires d'exposition français. Donc c'est un très grand honneur. Alors moi je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai la chance d'être quelque part entre Paris et l'Italie, entre la France et l'Italie. Et je suis très heureux d'être là comme ce petit point intermédiaire entre ces deux grandes personnalités du monde de l'art. Très heureux aussi d'être à Lyon, enfin à Villeurbanne, mais dans la région bien sûr. Oh là là, surtout éviter de rouvrir des sujets, mais d'être dans cette belle ville ce soir. Je suis né dans cette région. J'y ai passé une grande partie de mon enfance. J'y ai passé une grande partie de mon adolescence, une grande partie de mes études, notamment en venant en taxi, parce que j'étais dans le centre de Lyon en début d'après-midi. En venant en taxi, je suis passé Cours Lafayette, non loin du lycée Édouard Herriot, où j'ai fait une partie de mes études, notamment Hippocagne et Cagnes. Je suis passé devant deux adresses que j'ai habitées, Cours Lafayette, au cours de mes études. Et donc c'était amusant de retrouver voilà, comme ça des adresses, des lieux connus. Voilà, c'est une partie très importante de ma vie. C'est la ville où j'ai encore ma famille, hein, qui est d'ailleurs dont mes parents sont venus m'écouter ce soir, ce qui met un petit peu de pression supplémentaire, évidemment. donc voilà. Puis dernière chose, c'était un petit clin d'œil. Lyon est aussi, enfin en tout cas, donc et l'art contemporain dans cette région a été le plus bref passage de mon parcours professionnel, puisque j'ai été stagiaire, même pas un mois, à la première Biennale d'art contemporain de Lyon, la première BAC, l'amour de l'art, qui était formidable, et où j'avais commencé un stage, et j'en ai le souvenir d'un moment vraiment d'effervescence passionnant. Mais il se trouve que j'étais à peine là depuis quelques semaines qu'on m'a proposé un vrai boulot, c'est-à-dire un vrai contrat, etc., à condition de commencer aussitôt. Et donc j'ai plaqué la première Biennale d'art contemporain. J'ai eu l'occasion d'en retrouver les animateurs après, et c'est vrai que c'est un événement formidable, on en parlera peut-être aussi, qui a aujourd'hui une place très importante dans le paysage français, une place très importante dans le paysage international, et puis qui pose aussi des questions sur comment un événement peut à la fois révéler une scène artistique, peut à la fois donner la visibilité à la ville dans laquelle il se tient et à la scène dans laquelle il apparaît, et comment aussi parfois, même de manière plus paradoxale, il peut le révéler, mais aussi parfois, comme l'arbre qui cache la forêt, à la fois le révéler et puis parfois le masquer aussi. C'est une chose, je crois, assez intéressante. Donc voilà, quelques mots pour évoquer de manière un peu plus, tout en essayant de rester bref, le parcours que Nathalie a bien voulu décrire. Je ferai quelques points sur les quelques étapes qui ont peut-être le plus à voir avec l'endroit où on se trouve ici, c'est-à-dire avec l'art contemporain, puisque moi j'ai commencé mon parcours professionnel non pas comme spécialiste d'art contemporain, ce que j'ai fini par devenir un peu à mon corps défendant, mais comme un généraliste dans une collectivité locale, qui est paradoxale, puisque c'est la plus grande en France, qui était la ville de Paris. C'était très intéressant, puisque c'était aborder Paris non pas en tant que métropole, en tant que capitale, sous l'angle du rayonnement international, mais Paris en tant que territoire, c'est-à-dire en se posant la question de comment vit son réseau de bibliothèques, comment vivent ses conservatoires où les enfants peuvent étudier la musique, comment vivent ces choses qu'ensuite le monde de l'art contemporain a aussi beaucoup de mal à admettre, c'est les ateliers pour l'enseignement de la pratique amateur de l'art, toutes ces choses dont je me suis un petit peu éloigné après, mais qui sont très importantes, dont je pense qu'il est très important de les connaître, de les toucher du doigt. Et parfois, certains divorces qui peuvent, Dieu merci, de moins en moins exister entre l'art contemporain et une population, ses élus, ses élites également, peut venir du fait que les professionnels et les spécialistes du monde de l'art contemporain n'ont pas eu, dans leur parcours ou dans leur formation, cette approche de ce que peut être justement l'enjeu, ce que peuvent être les enjeux d'un territoire. Alors la ville de Paris, dans ce moment des années 90, était quelque chose d'assez passionnant, parce que s'y trouvaient réunis un certain nombre de personnalités qui faisaient de la politique culturelle municipale de l'époque quelque chose d'assez incroyable. C'était le moment où Stéphane Lissner dirigeait le Théâtre du Châtelet et on avait fait une sorte de rival de l'Opéra de Paris, y attirant Chéreau, Boulez, absolument tout le monde. C'est le moment où Gérard Violette dirigeait le Théâtre de la Ville, ce qui fait que tous les jours, moi je me suis délecté, je me délectais de danse contemporaine et de théâtre de manière passionnante. Et puis, c'était le Festival d'automne, mais ça a été surtout... le moment où, de cette dimension très généraliste de la culture, moi je m'intéressais plutôt à la littérature, je m'intéressais davantage peut-être aussi à la peinture historique, à la musique beaucoup, à l'architecture et au cinéma. Et quelque chose de très important pour moi dans ce début des années 90 a été la rencontre avec Suzanne Paget, qui à l'époque dirigeait le Musée d'art moderne de la ville de Paris et l'Arc. Et c'est vrai que c'est à travers un certain nombre d'expositions organisées par Suzanne Paget au Musée d'art moderne de la ville de Paris à ce moment-là. Là, je pense à des expositions qui ont été très marquantes pour moi, comme L'hiver de l'amour, qui avait été faite par Olivier Zahm et Hélène Fleiss à l'invitation de Suzanne Paget, comme la rétrospective de Félix González Torres, qui était la première fois qu'il était montré de manière rétrospective en France, ou au cycle d'expositions qui étaient comme des portraits de scènes artistiques, le portrait de la scène artistique anglaise avec Life Live, le portrait de la scène artistique du Nord avec Nuit Blanche, et qui étaient, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, des expositions magnifiques et passionnantes parce qu'elles montraient pas simplement un choix d'artistes de ces villes ou de ces pays, c'était pas un florilège des meilleurs artistes, mais elles étaient vraiment comme une sorte de coupe dans la scène artistique de ces pays-là, où on voyait à Londres les artistes, bon, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était les très grands artistes de Douglas Gordon au Chapman, en passant par Tracy Emin et autres, mais au-delà des artistes, les espaces alternatifs, les espaces gérés par des artistes, les revues, les critiques, et donc qu'une scène artistique, ce n'est pas simplement un ensemble d'artistes ou un ensemble de galeries, mais c'est vraiment un réseau comme ça, très, très vivant, très composite. Donc c'est de côtoyer, c'est de fréquenter beaucoup le Musée d'art moderne de la ville de Paris, d'avoir la chance de côtoyer Suzanne Paget et puis les gens qui étaient un peu dans son cercle à ce moment-là, comme notamment Hans-Ulrich Obrist, qui est devenu l'un des grands commissaires d'exposition internationaux. C'est d'avoir la chance de visiter aussi avec eux de grands événements comme la Biennale de Venise, etc., qui m'a porté peu à peu vers un intérêt plus particulier vers l'art contemporain, vers le sentiment à un certain moment que je trouvais dans les propositions d'un certain nombre d'artistes, des réponses ou des formulations à des questions. Enfin, je trouvais formuler certaines questions que je pouvais me poser d'une manière plus précise, même si non verbale, même si non a priori rationnelle, aux questions que je pouvais me poser à ce moment-là. Et donc, c'est ce moment qui a été pour moi très, très important dans un parcours qui allait me mener vers l'art contemporain. Ensuite, en 1996, j'ai suivi Jean-Jacques Ayagon, qui venait d'être nommé à la présidence du Centre Pompidou comme chef de cabinet, puisque en France, la particularité, c'est que dès qu'on a un peu de... Voilà, maintenant, les présidents d'établissements publics ont des chefs de cabinet, même des directeurs de cabinet, parfois. C'était un titre un petit peu ridicule. Et d'ailleurs, je me souviens que quand je suis arrivé au Centre Pompidou avec ce titre un peu ronflant de chef de cabinet, à ce moment-là, je me souviens toujours, il y avait eu dans les Inrecuptibles une petite notice un peu acide disant « Ayagon se prend pour un ministre, il s'est même nommé un chef de cabinet », alors qu'en fait, c'était la pratique de l'institution depuis 77, depuis sa fondation, où tous les présidents du centre avaient toujours eu un chef de cabinet. Mais bon, c'est sur moi que c'est tombé. Je ne leur en ai pas voulu parce que ce sont des gens que j'ai appris à bien connaître après. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire s'occuper auprès du président du centre de toutes sortes de choses et surtout des détails. À ce moment-là, le président avait deux collaborateurs proches. Et j'avais essayé de manière un peu synthétique de nous décrire l'un et l'autre. C'était d'une part Guillaume Cerutti, qui était directeur général du Centre Pompidou, et moi comme chef de cabinet, disant qu'il avait besoin à ce moment-là de celui qui allait gérer les millimètres et celui qui allait gérer les kilomètres. Et donc le directeur général, avec la charge de toute l'administration, de toutes les finances, de toute la stratégie du Centre Pompidou, était l'homme des kilomètres. Et moi, alors c'était beaucoup plus, peut-être plus facile, mais en même temps ça demandait aussi un peu ça demandait du doigté, de tout ce qui était de l'ordre des choix, des choses très fines, plus des relations avec avec aussi bien l'intérieur de la maison, qui est une maison très compliquée, le monde artistique, la communication. Et je revendiquais volontiers ce rôle de responsable des millimètres dans la gestion d'une grosse baraque comme le Centre Pompidou. Après 2 ans à m'occuper donc de ces millimètres qui étaient à ce moment-là intéressants parce que c'était le moment de la refonte du Centre Pompidou, de sa réorganisation, ce moment qui, à mon avis, a eu un impact qu'on ressent aujourd'hui. Pompidou s'est trouvé entre 1998 et 2000 fermé pour cause de travaux. Et le musée fermé avait amené l'équipe que nous étions à ce moment-là à imaginer que, pendant que les collections étaient fermées, on allait proposer, en collaboration avec les grands musées en région, des expositions à partir d'éléments de la collection. Et c'est comme ça que, en l'espace de 2 ans, je crois une vingtaine d'expositions ont été organisées, mais aussi bien Miro à Bordeaux que l'abstraction des années 50 à Colmar, que les vidéos, les installations, les grandes installations à Marseille. Et je crois que cette idée de la responsabilité des grands établissements à l'égard de leurs relations avec les musées qui font le tissu de la vie culturelle en France, est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui de manière très très opérante dans les expériences qu'on peut voir aussi bien de Centre Pompidou Mobile, de Centre Pompidou Metz, de Louvre Lens. C'est le moment où on a essayé de penser de manière un peu plus intelligente que dans le débat frontal les relations entre le centre, entre la capitale et les régions dans un pays très centralisé comme la France. Donc après 2 ans à m'occuper un petit peu de tout ça, j'ai pris la responsabilité des éditions du centre. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on s'est croisé avec Nathalie, puisque elle avait été parmi les premières en France, et enfin les premiers partout d'ailleurs, et la première même, à repérer un studio de 2 graphistes qui s'appelle M&M, et avec qui elle avait confié à l'époque le travail graphique au FRAC Champagne-Ardenne à Reims. Et moi, j'étais tombé sur ce travail que j'avais trouvé extraordinaire. Et bien après, puisque moi, c'est en 99 que j'ai commencé à travailler avec eux, donc bien après, j'ai fait appel à ces graphistes et on s'est suivi dans presque toutes nos aventures après, puisque quand je me suis trouvé de manière éphémère et inattendue à la rédaction en chef de Vogue, eux sont venus comme directeur artistique. Ensuite, à la FIAC, c'est à eux que j'ai confié l'ensemble de l'image graphique. Et c'est un compagnonnage, là aussi, dont je suis très heureux que sur une dizaine d'années, on ait pu comme ça se retrouver dans des contextes très différents. Cette idée de passer d'un lieu à l'autre, d'un élément à l'autre d'une même réalité qui est finalement celle de la création, dans des points de vue très différents, est une chose très importante dans mon parcours professionnel. C'est ce qui m'a amené à passer dans le privé, dans le public, qui sont des mondes a priori qu'en France tout éloigne et tout oppose, de passer aussi autour de cette même réalité l'idée de celui qui observe comme le journaliste, celui qui produit, à celui qui administre, à celui même qui vend d'une certaine manière, quelque chose que je revendique beaucoup. Je pense que l'idée d'opposer le monde du privé, le monde du public, au-delà des questions déontologiques qui sont absolument évidentes, mais en tout cas l'idée d'en faire 2 univers opposés et étanches est une idée qui ne marche pas, est une idée qui, à mon avis, qui a d'ailleurs causé beaucoup de tort et qui a beaucoup, je dirais, endormi et affaibli la vie culturelle française et notamment dans le monde de l'art contemporain. Cette idée de pouvoir passer d'un lieu à l'autre en emportant à chaque fois peut-être un petit peu de pollen de la fleur précédente vers la suivante est quelque chose de très important. Et alors, en l'occurrence, avec les graphistes dont je parlais à l'instant, M&M, nous nous sommes suivis et on s'est livré ensemble à ce jeu, j'espère, de pollinisation des univers culturels. L'édition au Centre Pompidou, on le sait peu, mais Beaubourg est une maison qui, sur une année, produit pratiquement 60 bouquins, 60 catalogues, 60 numéros d'une de revues d'art, ouvrages d'histoire de l'art. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire que de pouvoir piloter cette véritable petite maison d'édition au sein d'un établissement public. Ça m'a permis de rencontrer, de côtoyer, de travailler avec un certain nombre d'artistes. J'essaie d'en refaire le calcul et simplement, en prenant juste la lettre H, de passer de David Hockney à Pierre Huyghe ou à Richard Hamilton en l'espace d'une seule année et faire avec Pierre Huyghe un catalogue, avec Richard Hamilton un objet, enfin une édition de posters. C'est des choses absolument passionnantes de rencontrer et de côtoyer beaucoup de critiques d'art, beaucoup de Georges Didier Huberman à Patricia Falguière. Et puis, c'était une chose aussi de très importante. À ce moment-là, au Centre Pompidou, on avait l'envie d'inviter régulièrement des gens qui n'étaient pas au sein de l'institution à venir faire des projets. Et bien entendu, ces projets avaient une résonance aussi dans les publications. Et donc, travailler avec Philippe Vergne sur un projet d'exposition qui s'appelait Au-delà du spectacle et imaginer avec lui un catalogue d'exposition qui ne soit pas un catalogue mais qui soit un livre enfin, sous forme de gratuit dans lequel on faisait tenir exactement la même quantité de texte que sur un ouvrage de 250 pages. On l'avait imprimé sur un support magazine de 40 pages qui était gratuit et qu'on avait financé en vendant quelques pages de pub à l'intérieur. Donc des choses comme ça un petit peu qui venaient bousculer l'habitude de l'institution était très excitante, mais aussi avec Olivier Zahm et Hélène Fleiss, dont je parlais tout à l'heure, on a fait un très beau projet autour d'une exposition qui s'appelait Elysian Fields, en faisant appel à des jeunes graphistes néerlandais qui étaient les Experimental Jet Set, ou d'autres encore, comme Eric Troncy et l'équipe du consortium, qu'on va retrouver un tout petit peu plus loin dans 2 minutes, dans 1 minute même tout de suite, puisque je zappe la phase journalisme, qui a été brève, mais qui a été passionnante, et dont je garde encore beaucoup de plaisir et je crois un goût particulier pour l'idée de l'observation et de l'analyse de cette réalité, un goût de porter un point de vue critique sur le monde de l'art en l'occurrence, pour arriver au ministère de la Culture où je suis arrivé à la fin de l'année 2002 pour y rester 2 ans, ce qui n'est pas beaucoup dans un parcours professionnel, mais qui ont été 2 ans extrêmement intenses, extrêmement difficiles aussi, parce que le ministère de la Culture, dans les années 2000, a été confronté à la question de savoir à quoi il servait. Alors je ne dis pas qu'il servait à rien, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que ce pourquoi et la manière dont il avait été construit et la manière dont il avait été beaucoup structuré dans les années 80 ne correspondait plus à la réalité des missions qui étaient les siennes à ce moment-là, ni à la réalité de ses moyens. Et donc il était vraiment dans un moment de crise, de crise d'évolution, où il avait été inventé pour accompagner toutes les initiatives du territoire français sur un registre vraiment que sans fleurs fleurissent, avec vraiment l'idée de soutenir au maximum, de créer, d'impulser, et il se retrouvait 20 ans, 30 ans plus tard, avec toutes sortes d'initiatives formidables qu'ils n'avaient pas les moyens d'accompagner dans leur fonctionnement ou dans leur développement. Et puis, il avait été aussi conçu comme une structure, le ministère de la Culture, depuis l'époque Malraux et très fortement dans les années 80, qui sont les années de Lang, comme le lieu où, d'une certaine manière, c'était l'État et c'était Paris qui disait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. C'était l'État, c'était le ministère de la Culture qui évaluait, qui distribuait les bons points, les pas bons points, etc. Et il se trouvait, dans les années 2000, face à une réalité complètement changée, où les villes, où les régions, non seulement avaient des initiatives, dépensait de l'argent, mettait des moyens, mais avait acquis une véritable compétence. Et donc, les 2 ans que j'ai passés au ministère ont été à la fois passionnants et un peu marqués par ce moment d'inconfort où il faut faire prendre conscience à une machine du fait qu'elle doit essayer de se reprogrammer pour retrouver le sens de sa mission. Et Dieu sait qu'il est important et Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Alors, ça m'a permis de venir beaucoup ici. C'est ce qui m'a permis de passer pas mal de temps à l'Institut d'art contemporain et notamment, comment ne pas dire un mot du plaisir que j'ai eu et de l'intérêt que j'ai eu aux rencontres que j'ai pu faire avec Jean-Louis Mauban ici, bien évidemment, de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle, à commencer par Nathalie Herginot ou par Jean-Pierre Michaud, évidemment. Autour de rencontrer aussi un certain nombre de personnages qui ont été importants pour moi. Je voudrais, puisque je me trouve ici, dire que, par exemple, il y a une personne qui a été pour le monde de l'art contemporain très importante, je pense, en région Rhône-Alpes, mais en France, qui était Marie-Claude Jeune, et qui a fait vraiment ici, qui a structuré avec un travail vraiment à la fois de très très grande proximité de la réalité du terrain artistique ici en région Rhône-Alpes, et en même temps de capacité à venir défendre ses dossiers au ministère à Paris, un travail formidable. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire que c'est quelqu'un vraiment qui est une grande dame de une grande, grande dame de l'art contemporain. Et voilà. Et puis, bon, c'était le moment où il y avait un certain nombre à Lyon d'enjeux importants, comme une phase d'incertitude renforcée par des tensions politiques entre la ville de Lyon et le ministère de l'époque sur l'avenir de la Biennale, avec toujours la tentation qu'avait Paris d'essayer de remettre en lice l'idée d'une biennale à Paris, ayant toujours du mal à considérer la Biennale de Lyon comme pleinement légitime. Je crois que parmi les choses auxquelles on a pu, avec toute une équipe à l'époque, travailler, ça a été de vraiment prendre acte du fait que la Biennale de Lyon était et devait être la grande biennale en France. C'est le moment où j'ai eu la chance aussi de travailler à l'époque aussi avec Yves Robert au premier projet de transfert de l'École des Beaux-Arts et d'installation sur le site des subsistances. Donc voilà, vraiment, c'est toute cette région a été au cœur de mon activité au ministère. Et puis en même temps, 2 ans au ministère de la Culture, c'est vraiment 2 ans dans une sorte de lessiveuse dont j'étais heureux de partir, et vers une aventure complètement différente, complètement opposée, un peu tabou aussi, puisque en 2004, passé du ministère de la Culture, du service public, à ce qui était le marché, la FIAC, une foire, un lieu dans lequel des galeries viennent vendre des œuvres à des collectionneurs, était quelque chose d'un petit peu tabou. Et ça a été pourtant, je crois, enfin, à la fois pour moi, l'une des aventures professionnelles les plus excitantes de mon parcours, et en même temps, je crois qu'on a, avec l'équipe, et notamment avec Jennifer Flay, qui était mon partenaire dans cette affaire, on a fait un travail, enfin, vraiment, on a fait de la FIAC quelque chose de vraiment important. Alors, quels étaient les enjeux de la FIAC à ce moment-là? C'était bien sûr les enjeux d'une foire. C'est donc comment faire en sorte que cette foire soit le lieu où les meilleures galeries du monde soient certaines de rencontrer les meilleurs collectionneurs du monde dans l'atmosphère la plus électrique, la plus excitante et la plus ouverte possible. Donc voilà, c'est ensuite un travail à nouveau de fourmi pour aller convaincre une à une les plus grandes galeries américaines, allemandes, mexicaines, brésiliennes, que sais-je, que Paris, la France, était un lieu sur lequel un marché existait, sur lequel une scène existait, et qu'ils avaient intérêt à y venir. De convaincre un à un les plus grands collectionneurs du monde entier que, à Paris, pendant 4 jours, ils avaient moyen de trouver ce que la création et l'art contemporain pouvaient leur proposer de mieux. Alors, ça a été un travail sur tous les paramètres de cette foire, la liste des galeries, les opérations de communication. On est passé de la périphérie, puisque la FIAC était à la porte de Versailles, vers le centre de Paris, avec ses lieux symboliques qui étaient le Grand Palais et le Louvre, de comment passer d'un événement fermé sur lui-même à un événement qui fédère toute la vie artistique et culturelle de Paris à ce moment-là. Au début des années 2000, très souvent, pendant la FIAC, c'est le moment où le Centre Pompidou était en inter-exposition. C'est le moment où au Grand Palais, il y avait une exposition plutôt de peinture qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'art contemporain. Il a fallu aller voir là à nouveau, un à un, tous les patrons des grands établissements publics, des grands musées, pour leur dire: la FIAC, c'est le moment où vous devez montrer la chose la plus visible, la plus forte, où vous devez l'inaugurer à ce moment-là pour faire vraiment de Paris la ville la plus excitante et arriver à atteindre cette sorte de masse critique qui fait que une ville, à un moment donné, devient un pôle d'attraction internationale très fort. Chose que Londres avait très bien su faire 10 ans auparavant, et chose qu'on est, je crois, parvenu à faire à Paris. La belle idée d'une foire, c'est que c'est un événement qui à la fois reflète l'énergie d'une scène qui, à ce moment-là, a pu exister et a pu être fort parce qu'elle était le reflet de toutes les forces qu'avait la scène artistique française, mais qui, auparavant, était dispersée et donc n'était pas visible. Donc, de refléter l'extraordinaire qualité de l'offre artistique à Paris, refléter le fait que les galeries y sont nombreuses et y sont extrêmement importantes, de couper court à l'idée qu'on entendait en France seriner depuis des années que, de toute façon, il n'y avait pas de collectionneurs privés, que seul l'État... Enfin, on se souvient quand même des discours selon lesquels les fracs avaient aussi étouffé la créativité française, puisque les artistes n'étaient achetés que par des associations subventionnées et qu'il n'y avait aucun collectionneur privé en France. Chose absolument absurde que, je crois, là aussi, le développement de la FIAC a permis de révéler que les collectionneurs en France sont nombreux, qu'ils sont puissants, qu'ils sont prescripteurs, qu'ils sont reconnus internationalement. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Nous voilà à Venise. Non, nous voilà presque à Venise. On fait un tout petit détour d'une nuit à peine, puisque au moment où je quittais la FIAC pour Venise, suite à une rencontre avec François Pinault, qui m'a proposé à ce moment-là de prendre la direction de sa fondation à Venise, j'y reviendrai sur cette rencontre. J'ai aussi eu une expérience assez excitante qui était la direction artistique de Nuit Blanche, cet événement qui se passe à Paris depuis une dizaine d'années et qui propose des interventions artistiques pendant une nuit. C'était un défi très compliqué, très intéressant, parce que le territoire est immense et le budget qui paraît énorme, qui est énorme, hein, qui est quasiment 1 million d'euros en production, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais en même temps, il faut arriver à animer un territoire qui lui-même est gigantesque. C'est un événement qui est très compliqué parce qu'il faut gérer à la fois la dimension de fête, hein, un peu joyeuse et un peu spontanée, et en même temps d'exigence artistique, qu'il faut bien sûr, on est obligé de gérer des flux importants, donc d'imaginer des œuvres très importantes en taille, mais tout en essayant quand même de résister à cette sorte de tyrannie du spectaculaire et de proposer des choses fines. Il faut gérer un in, qui est ce qu'on programme, et un off, qui est tout ce qui arrive tout autour, en gardant une identité de ce qu'on programme suffisamment forte pour que ça puisse faire oublier un peu les choses plus spontanées qui naissent autour et qui sont parfois de qualité moindre. Et puis, il faut gérer cet équilibre entre le festif et le crédible et le légitime. Et à ce moment-là, c'est encore un peu le cas, mais je pense moins, et j'espère y avoir contribué, toute la scène artistique et culturelle à Paris était vent debout contre Nuit Blanche, comme une sorte de fête à neuneux qui venait détourner les fonds publics et tenir lieu de politique culturelle. Avec là aussi une sorte de bagarre entre l'événementiel et puis la longue durée de la politique culturelle qui est elle seule valable. Et évidemment qu'elle est elle seule valable. Sauf que moi, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait articuler entre l'éphémère et le durable des sortes de relations d'intelligence. Je prendrai 2 ou 3 petits exemples. Par exemple, en allant voir un certain nombre de collections publiques ou privées dont je savais qu'elles avaient acheté des œuvres très importantes, mais ces œuvres qu'elles n'avaient jamais trouvé le moyen de les montrer parce qu'il leur manquait toujours les 3 sous qui permettaient de les réactiver, et en leur disant voilà, pour être clair, au Fnac vous avez acheté cette œuvre, cette performance de Tino Segal qui s'appelle The Kiss il y a 4 ans, qui est une chose absolument très importante de l'art contemporain, vous l'avez acheté depuis, vous ne l'avez jamais monté, vous ne l'avez jamais montré, parce que simplement il faut derrière produire, payer les danseurs, etc. On va le faire. D'aller voir le musée d'art moderne de la ville de Paris en disant, quand vous avez fait l'exposition Kerry Swin Evans, il y a un lustre que vous n'avez pas pu montrer parce qu'il était trop grand, qu'il n'entrait pas dans le musée. Cette nuit-là, l'installer dans un lieu à l'extérieur, etc. D'aller voir le fonds d'art contemporain de la ville de Paris, qui avait acheté à la FIAC le camion de Claude Lévesque qu'ils avaient acheté, qu'ils n'avaient jamais montré, en leur disant voilà, on va le montrer ce soir-là. Et donc j'ai essayé de tisser comme ça des liens dans lesquels l'éphémère ne venait pas contre la longue durée, mais au contraire pouvait lui donner une nouvelle visibilité, une nouvelle... Si j'évoquais Nuit Blanche, c'est aussi parce que Nuit Blanche m'a donné l'occasion de produire un certain nombre d'œuvres, et notamment 2 d'entre elles qui n'est pas indifférent de citer ici à l'IAC, puisque ce sont des œuvres d'artistes qui ont eu ici des expositions tout à fait importantes. Un film de Joachim Koester, et puis Les dinosaures de Hans Chabous, dont vous avez sans doute souvenir lorsqu'ils ont été montrés ici. Ce sont des œuvres qui ont été coproduites au moment de Nuit Blanche, et de la même manière que certaines d'entre elles, celles qu'on était allées chercher dans les collections, venaient de plus loin que Nuit Blanche, et bien ces œuvres créées pour l'éphémère de Nuit Blanche vivent au-delà. Et donc l'événement n'est plus simplement, ne dure plus 12 heures, mais il s'inscrit dans la longue durée. Voilà, nous voilà à Venise, enfin. Et donc comment je m'y retrouve, comme tout le monde, je crois que toute personne qui s'intéresse à l'art contemporain avait été à la fois tellement déçue au moment où François Pinault avait annoncé son renoncement, puisque c'était le titre de l'article qu'il avait signé dans Le Monde, ça s'appelait « Il se gagne de points, pourquoi je renonce ?» Donc on avait tous été tellement frappés par cela, et ensuite à la fois ébloui et parfois plus sceptique, mais quand même ébloui par la démonstration incroyable de ce qu'il avait fait au Palazzo Grassi, puis à la pointe de la douane. Et puis il se trouvait que Palazzo Grassi, que Pino cherchait un directeur pour ces deux lieux. Et il m'a rencontré, il a voulu me rencontrer. Moi, j'étais très impressionné. J'avais potassé l'entretien. Voilà. Et puis, je crois que l'une des... Il m'a quasiment pas posé de questions, donc moi j'avais déjà prévu un programme, enfin des idées, des propositions, des analyses, rien de tout ça. On a parlé de qui j'étais, de la vie, de etc. etc. Puis à la fin il m'a dit vous commencez quand et donc c'était tout à fait déstabilisant et à la fois comme il sait l'être, c'est quelqu'un qui parle peu, qui décide vite et qui est à la fois capable d'être de vous laisser dans l'incertitude totale où vous ne savez pas si vous avez compris ou pas et d'aller droit au but au moment où donc c'est une personnalité. Si je parle de cette personnalité, c'est que au final, au-delà de Venise, de la magie qu'il y a à l'idée d'habiter Venise, au-delà de la beauté des lieux, au-delà du caractère fabuleux des collections, je me suis dit que passer un moment de mon parcours professionnel à travailler aux côtés d'un personnage comme celui-là, pour en plus cette partie de sa vie qui est pour lui la plus importante, puisqu'il a vraiment organisé toutes ses affaires pour ne plus y avoir de rôle opérationnel, pour être toujours très présent, regarder ce qui se passe, mais pour n'y avoir plus de rôle opérationnel et se consacrer chaque jour, je peux vous dire, chaque jour, il passe plusieurs heures à s'occuper de sa collection et de ses lieux. Je me suis dit que voilà, vivre ça, c'était une aventure à vivre. Donc cette aventure, voilà le premier de ces lieux, le Palazzo Grassi. Cette aventure, donc, elle a une préhistoire. La préhistoire, c'est la collection que François Pinault rassemble depuis les années 80 à peu près. C'est une collection qui s'étale sur un peu plus de 35 ans. C'est une collection particulière parce qu'elle est celle d'un homme secret, d'un homme qui parle peu et qui a mis très longtemps avant d'arriver à l'idée de partager, d'avoir l'idée de montrer, de dévoiler cette partie de sa collection. C'est une collection très, très importante en nombre. Je suis malheureusement aujourd'hui dans l'incapacité de vous donner le nombre exact d'œuvres de la collection. Nous sommes bien sûr de l'ordre au-delà, nous sommes dans les milliers. Hein. On ne passe pas la dizaine de milliers, mais on est plutôt dans ce... Il s'agit de plusieurs milliers d'œuvres. Et c'est une collection surtout formidablement active. C'est-à-dire que c'est une collection qui, chaque jour... Alors pas chaque jour, pas une fois par jour, mais qui dans l'année s'enrichit de plusieurs centaines d'œuvres. C'est donc une collection extrêmement, extrêmement vivante. Cette dimension vivante, elle est aussi l'une des causes de la possible réticence ou difficulté qu'a eu longtemps et puis qu'il a encore d'une certaine manière François Pinault à montrer de sa collection et à en parler. C'est qu'il a le sentiment que dès qu'il montre quelque chose, dès qu'il pose quelque chose, c'est une manière de figer une réalité qui pour lui est avant tout en mouvement. Et bon, évidemment, par exemple, une des discussions que j'ai souvent avec lui, c'est celle du catalogue. Parce que c'est peut-être un tropisme ou un travers du monde des musées que de se dire que une collection, elle est d'abord destinée à donner lieu à un catalogue, enfin à être cataloguée, à être. Et cette idée de catalogue, c'est pour lui quelque chose de terrible parce que cataloguer, c'est figer et c'est presque arrêter quelque chose qui doit être dans le mouvement et dans le temps. Donc voilà, la préhistoire, c'est celle d'une collection qui se constitue d'abord sur un goût premier. Je passe sur vraiment le paléolithique de la collection, mais qui est un goût premier pour l'art minimal. C'est vraiment, je crois, ce qui est le plus structurant dans la collection de François Pinault, à la fois parce qu'elle en représente une partie très importante des grands minimalistes américains, au sens propre du terme, les Judd et autres, mais aussi sur beaucoup d'œuvres qui vont vers le très peu, vers le zéro, vers le presque rien, qu'il s'agisse du blanc, qu'il s'agisse de Hyman, qu'il s'agisse de Agnès Martin, qu'il s'agisse de toute cette dimension-là. Et donc, cette idée du minimalisme structure la collection à la fois parce qu'elle en constitue un pilier important, mais aussi parce que l'autre pan de cette collection est, de la part de François Pinault, la volonté de ne pas rester enfermé dans son goût et sa passion pour le minimal. C'est quelque chose, je crois, d'assez paradoxal chez un collectionneur, c'est-à-dire que ce qu'il aime, c'est vraiment l'art minimal, et en même temps, il ne veut pas être prisonnier de son goût, il ne veut pas être prisonnier de ce qu'il aime, et donc il est aussi à la recherche de ce qui en est souvent l'exact opposé, qui va du côté des choses plutôt post-pop, qui va du côté de certains goûts, de l'excès, de la provocation ou de la sur-signification. Oui, ben, Rébérol, par exemple, ou ce qui va vers la provocation et la sursignification, qu'elle soit du côté de la vanité, du côté de la sexualité, du côté de ces choses-là qui sont à l'antipode, aux antipodes de l'acier pur et des angles parfaitement droits de Donald Judd. Donc voilà, c'est comme ça que se constitue la collection. Avec des achats très importants, on a beaucoup parlé, les grands Rothko, les Yves Klein, etc. Et puis, au début des années 2000, alors il l'a décrit une fois comme, dans une interview, j'ai retrouvé cette chose qu'il m'a pas, il se souvenait pas de l'avoir dite, mais enfin bon, quelqu'un l'a écrite, que un beau jour, il est passé du désir de possession au besoin de partage. C'est-à-dire comme si, bien sûr, l'étape suivante, après collectionner, il y a collectionner pourquoi et donc comment donner à montrer. Et ça a été donc son grand projet de l'île Seguin, qui nous a tous fait rêver dans les années 2000, donc d'un grand bâtiment sur la reconquête de cet ancien territoire industriel des usines automobiles, qui avait aussi un mythe parisien, un mythe industriel, un mythe du XXe siècle, un mythe de la modernité, hein, des usines de Boulogne-Billancourt. Et puis avec un grand projet, avec Tadao Ando, grand bâtiment, enfin, vraiment un très beau projet fondé à l'époque sur des références qui étaient celles du Guggenheim de Bilbao ou des grandes institutions françaises, c'est-à-dire sur l'idée d'un très grand bâtiment, d'une très forte signature architecturale et d'équipes très importantes, vraiment quelque chose de très institutionnel. On connaît l'histoire, lassé d'attendre pas tant des autorisations ou des permis de construire que d'attendre de la part des collectivités locales qui avaient autour de l'île Seguin un signe d'accompagnement de son projet. Un signe d'accompagnement de son projet, ça veut dire le projet Pinault sur la pointe de l'île Seguin, c'était un musée. Or, on sait que la plus proche station de métro est à plus de 800 mètres de l'île Seguin, qu'il n'y a pas de parking à proximité, qu'il n'y a pas de pont à proximité, qu'il n'y avait pas sur le reste de l'île Seguin de projet fort. Et François Pinault, à l'époque 74 ans, 75 ans, voit lui en train d'avancer dans son projet et voit à un certain moment que rien ne démarre autour. Et d'ailleurs, tant et si bien qu'aujourd'hui, rien n'a toujours démarré et que la station de métro n'existe toujours pas, etc., etc., alors que Palazzo Grassi est ouvert maintenant depuis 6 ans. Et donc, il fait cette fameuse tribune, alors qu'il fait un scandale dans le monde, qui dit « Il se gagne, je renonce », avec cette phrase disant le temps de la décision, le temps de l'entrepreneur et le temps de la décision publique ne sont pas les mêmes. Et hélas, aujourd'hui, je fais le constat qu'ils n'arrivent pas à ces deux temps n'arrivent pas à concorder. Donc, il se réoriente à ce moment-là vers un projet complètement inverse, très pragmatique, qui est « ne construisons pas, prenons quelque chose de déjà construit, allons au plus rapide ». Et à ce moment-là, le Palazzo Grassi, que voilà donc en photo, ça c'est donc la façade que vous en connaissez, puis voilà une petite vue, on ne voit pas de petite vue. Site de l'intérieur, grand palais 18e, le dernier palais du Grand Canal construit donc avant la fin de la République de Venise, qui avait été exploité par Agnelli, qui en avait fait la tête de pont du mécénat et de la communication culturelle du groupe Fiat dans les années 80-90. 2005, Agnelli était mort, Fiat ne se portait pas très bien et Fiat voulait vendre le Palazzo Grassi banco suite à une petite manipulation qui fait que la ville de Venise voulait surtout pas que Palazzo Grassi devienne un hôtel. Donc la ville de Venise rachète le Palazzo Grassi s'étant déjà garanti le fait que François Pinault allait le reprendre derrière. Et François Pinault se trouve et ouvre exactement le 30 avril 2006, donc même pas un an après avoir renoncé à l'île Seguin, ouvre une première exposition à Palazzo Grassi pour montrer une partie de sa collection. Et je vous en montre juste deux images qui là aussi sont dansées un peu dans ces deux directions. Le grand atrium avec au sol la grande pièce de Carl André et à l'extérieur, mais c'est très difficile de la voir, une installation lumineuse de La Four Eliasson et Le Chien de Jeff Koons. Et à nouveau, on est sur ces deux phases, le minimalisme d'un côté et de l'autre, la capacité à faire événement et à aussi aller de ce côté de l'art contemporain, que ce qu'a pris l'art contemporain au cours des dernières années, plus ludique, plus glamour ou que sais-je. Dans le même temps, la ville de Venise cherche à s'occuper de la pointe de la douane, que voilà, que vous connaissez. Bâtiment qui était la douane de Venise depuis le XIIIe, XIVe siècle, mais construit lui-même par Benoni au XVIIIe siècle, et puis qui était vraiment la douane de mer, c'est-à-dire que à l'époque, l'entrée sur le Grand Canal était fermée, les bateaux déchargeaient leurs marchandises sur le canal de la Giudecca, toutes les marchandises allaient à l'intérieur, où elles étaient dédouanées, stockées, et rentraient ensuite dans Venise. Et donc ce lieu un peu mythique était à l'abandon depuis de nombreuses années, fermé au public depuis de nombreuses années, dans un état épouvantable. Et là encore, la ville de Venise, François Pinault dit « moi ça m'intéresse pour montrer ma collection ». La ville de Venise dit « oui mais là quand même c'est un peu trop important pour faire du gré à gré, donc on va faire une petite consultation ». Deux compétiteurs, la Fondation Pinault avec Tadao Ando, la Fondation Guggenheim soutenue par la région de Venise puisque ça nécessitait un financement public, et la Fondation Guggenheim et l'architecte Zaha Hadid. Pinault remporte cet appel d'offres avec un argument d'ailleurs important, c'était que dans son offre, lui faisait son affaire à 100% du financement de la production et du fonctionnement de l'institution sur 30 ans. Tandis que la Fondation Guggenheim, comme ils le font à Bilbao ou ailleurs, prévoyait de mettre à disposition sa collection, de donner sa marque, son brand, mais en même temps demander aux collectivités locales de payer pour le fonctionnement des choses. Donc c'est effectivement un argument qui a pesé dans la décision. Et donc la compétition a été remportée en 2007, en même pas 2 ans. Tadao Ando fait ce grand projet d'aménagement et en 2009, donc 2 ans jour pour jour après, la pointe de la Danne ouvrait dans le cadre un petit peu différent de Palazzo Grassi, qui n'est pas d'un bail amphithéotique, puisque Palazzo Grassi appartient toujours à la ville de Venise, Pinault en a la jouissance pour 99 ans. En revanche, dans le cadre de la pointe de la douane, il a pris en charge tous les travaux, il prend en charge tout le fonctionnement, il l'anime, et au bout de 30 ans, le bâtiment reviendra pour l'euro symbolique à la ville de Venise, qui donc pourra à ce moment-là bénéficier des installations, sauf si la ville de Venise à ce moment-là décide que c'est formidable et qu'il faut recommencer pour 30 autres années. Voilà, j'avais envie quand même de vous raconter un petit peu très brièvement cette petite histoire. Je ne dirai pas grand-chose du mode de fonctionnement de ces deux musées. J'en dirai juste une chose, c'est que de la même manière qu'on est parti à l'antipode des valeurs qui avaient présidé au projet Il Seguin, du grand bâtiment très impressionnant, très signé, de la même manière, on est parti du mode de fonctionnement institutionnel calqué sur ce que peuvent être les grands établissements publics français vers un mode beaucoup plus léger. On est une toute petite équipe, Palazzo Grassi, Pointe de la Douane, donc les deux lieux ensemble qui accueillent chaque année 350 000 visiteurs à peu près. Nous fonctionnons avec une équipe, nous sommes 18 personnes permanentes, selon un mode d'organisation aucun mode n'est universel, mais qui, à mon avis, fait et fera dans les années qui viennent, années, hélas, qu'on peut imaginer austères pour tout le monde, fait preuve de son efficacité et de sa souplesse, qui est celle de réduire au minimum les équipes permanentes et de travailler énormément en faisant appel à des collaborateurs extérieurs. Donc, pour donner un exemple, à Palazzo Grassi, on a 2 personnes qui s'occupent de la sécurité et le reste est délégué à des sociétés extérieures. Pour l'accrochage, on a une petite équipe, l'accrochage, la régie et la conservation, restauration, 3 personnes et le reste, on passe. Voilà. On est vraiment dans une forme de délégation et de l'idée est de rester le plus léger, le plus souple possible. Le plus souple possible, pour quoi faire ? Donc pour organiser des expositions. Et là encore, ça a été une chose vraiment intéressante qui est d'amener François Pinault, qui donc est très très présent, ce qui est une chose, enfin, comme je l'ai dit au départ, pour moi intéressante du projet, à formuler et à écrire, presque à énoncer son projet, c'est-à-dire Palazzo Grassi, Pointe de la Danne, comment ça marche, puisque sur les 5 premières années, il y a eu des expositions, voilà, de la collection un peu, mais l'idée de donner un rythme. Donc Pointe de la Douane propose tous les 2 ans un accrochage complètement renouvelé, donc sur les 3000 m² de la Pointe de la Douane,
d'œuvres de la collection François Pinault. On choisit une thématique, on choisit un commissaire et on lui demande de venir faire un choix d'œuvres dans la collection et proposer un accrochage. Ici, vous avez quelques images de l'exposition Éloge du doute qui a été confiée, dont le commissariat a été confié à Caroline Bourgeois et qui durera jusqu'à la prochaine Biennale d'art contemporain avec là, les grands Judd, le Catalan qui est un peu une des icônes de la collection. Là encore, c'est le goût de François Pinault de mettre comme icône de la collection. On dit aujourd'hui souvent que l'art contemporain, ce sont les trophées contemporains, de faire comme icône de sa collection une sorte d'anti-trophée qui, au lieu de montrer sa tête, là, montre son cul. Chaque visiteur qui passe dessous, qui passe dans la salle, est obligé, en sortant de la pointe de la Donne, de passer sous le cul du cheval. À Palazzo Grassi, en revanche, une alternance d'expositions de la collection, là aussi confiée à des commissaires, et d'invitations à des artistes à venir s'emparer du Palazzo. Je vais vous en montrer quelques images avec Urs Fischer.